France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Après avoir reçu hier Sébastien Chenu pour le Rassemblement National, invité du 13-14 aujourd'hui à quelques heures du débat d'entre-deux-tours, Yael Braun-Pivet, députée en marche des Yvelines et présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Bonjour madame.
Bonjour.
01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique réagir pour les messages des auditeurs. Je voudrais commencer par celui de Denis. En début de mandat, Emmanuel Macron avait prévu de réduire l'influence de l'extrême droite à sa plus simple expression. À la fin du mandat, on retrouve l'extrême droite à 45% d'intention de vote. Qu'en dites-vous ?
C'est un échec collectif. Personne ne peut se satisfaire de cette montée des extrêmes, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. On voit qu'on a réussi avec Emmanuel Macron et sa majorité à occuper un espace très central, très modéré, très progressiste.
Tel point qu'il lui a souvent été reproché de jouer le match uniquement macroniste extrême droite et du coup le paysage autour, les modérés autour n'est pas voix au chapitre.
Les modérés finalement c'est nous. C'est nous qui avons réussi à rassembler la droite modérée et les sociaux-démocrates de gauche. La difficulté, c'est que et le Parti socialiste et le Parti Les Républicains n'ont pas réussi à se reconstruire, à réoccuper l'espace qui est le leur. Et on voit aujourd'hui qu'on a notre espace central que l'on occupe et de chaque côté seulement des extrêmes. Nous ne pouvons pas être jugés responsables de l'absence de ces deux grands partis traditionnels que sont Les Républicains et le Parti socialiste. En revanche, nous voyons que nous avons réussi à agréger des responsables politiques autour de notre projet, autour de notre majorité. Nous sommes porteurs d'une voix de rassemblement et je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui s'en plaindre parce que cette voix de rassemblement, c'est ce que je crois veulent les Français.
Qu'attendez-vous du débat de ce soir, Yael Braun-Pivet ?
J'attends un débat qui puisse très clairement montrer quels sont les projets des uns et des autres. On voit que dans le débat, Marine Le Pen notamment a pu paraître pour certains comme étant une modérée, plus modérée en tout cas qu'Éric Zemmour qui portait des thèses très radicales. Et certains ont pu oublier le projet qu'elle portait, quel était son projet, que ce soit en matière d'Europe, que ce soit en matière d'écologie, que ce soit en matière d'emploi, que ce soit en termes d'identité, en termes de démocratie. Et ce soir, c'est l'occasion de montrer quel est le projet que nous portons et quel est le projet qu'elle porte et qui ferait beaucoup de mal aux Français et à la France s'il était appliqué.
Est-ce que vous pensez que c'est le bon argument qui, au fond, est utilisé depuis des années et des années, faire peur avec l'extrême droite et Marine Le Pen ?
Vous savez, moi, je fais de la politique que depuis 5 ans et je suis une pragmatique, une femme de raison. Et il ne s'agit pas de faire peur avec...
Parce qu'on voit que ça marche de moins en moins et la campagne l'a montré.
Mais ça marche pas parce que nos compatriotes sont des gens sérieux qui ne votent pas sans faire attention à ce qu'ils votent. Et donc, moi, je crois qu'il faut les appeler à lire le programme de Marine Le Pen. Il est très détaillé. Il y a son site internet, il y a chacune de ses propositions qui sont détaillées et ils verront à quel point son programme est dangereux pour nos valeurs, dangereux pour nos pays, notre pays, dangereux pour l'emploi, dangereux pour l'Europe.
Concrètement, prenez un exemple pour montrer si vous aviez quelqu'un en face de vous sur un marché pour dire le programme de Marine Le Pen est dangereux, très concrètement.
Très concrètement, quand Marine Le Pen propose la préférence nationale, il s'agit très concrètement, de revenir sur un principe fondamental sur lequel notre République est fondée, mais même au-delà de notre République, notre pays, depuis la Déclaration des droits de l'homme, c'est le principe d'égalité. Aujourd'hui, ce principe d'égalité, si nous devions mettre en œuvre la préférence nationale, serait foulé aux pieds. Il n'existerait plus dans notre pays. Et je crois que ça, nos compatriotes ne le souhaitent pas.
Pierre, au standard de France Inter. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Vous nous appelez du Jura, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Oui. Bonjour.
Oui, ma question porte sur l'âge de départ à la retraite. Le candidat Macron a annoncé 65 ans, on retrouve ça d'ailleurs dans sa profession de foi. Depuis, comme il a besoin des voix de la gauche, il a parlé de 64 ans, de référendum, mais rien de précis. Il n'a pris aucun engagement précis, il entretient le flou. Donc j'aimerais bien savoir où il en est sur ce point. Dans l'immédiat, moi, je suis décidé à voter blanc. Il est certain que si il maintient les 65 ans, s'il ne s'engage pas plus clairement, je n'ai aucune raison de changer d'avis.
Yaël Braun-Pivet, merci Pierre pour votre question.
Merci Pierre. Vous savez, l'objectif du président de la République candidat, c'est de préserver notre système et de le sauver. Le sauver parce que il y a de plus en plus de personnes retraitées, de personnes qui arrivent au grand âge.
Même s'il n'y a pas urgence financière à modifier le système de retraite.
Alors, concernant le système de retraite en lui-même, mais nous avons le financement de la dépendance à effectuer. On sait que c'est un grand défi et nous souhaitons tous que nos personnes âgées, les plus anciens, puissent vivre dignement jusqu'à la fin de leur vie. Et ça coûte de l'argent. Et pour pérenniser ce système des retraites et pour financer cette dépendance, nous avons besoin de prolonger l'âge de départ à la retraite. Le président de la République a effectivement proposé ce prolongement jusqu'à 65 ans. Et il est ouvert, et c'est bien heureux, puisque nous souhaitons faire de plus en plus de concertations, que ce soit avec les citoyens directement, tels que vous, Pierre, ou avec les syndicats et les organisations patronales. Selon la discussion qui aura lieu, selon l'évolution de la situation, il a indiqué que les 65 ans n'étaient pas un totem ni un dogme et que cet âge pourrait être avancé sous réserve que les objectifs puissent être atteints.
Donc, Yaël Braun-Pivet, il n'y aura pas de précision, si j'ose dire, de choses gravées dans le marbre ce soir lors du débat. On entendait Pierre qui nous dit 65 ans, je vote pas pour Macron, mais si les choses sont différentes, je peux voter pour lui. Il y a beaucoup de gens qui attendent des précisions dès ce soir. J'entends bien le côté, il faut qu'on concerte. Mais il y a des gens qui attendent des précisions.
J'entends qu'il y a des gens qui attendent des précisions. Ils ont raison d'une façon générale. Il faut vraiment que les propositions soient précises. Mais en même temps, on ne peut pas en appeler à la concertation, à l'écoute des uns et des autres et dire que tout est décidé à l'avance. Maintenant, je voudrais dire quand même à Pierre, par rapport à son vote, que s'il n'est pas satisfait pleinement des deux candidats qui sont présents au deuxième tour, malheureusement pour lui, en tout cas, il y a deux candidats. C'est le principe démocratique de notre pays et il va bien falloir choisir parce que lundi matin, il y aura un président ou une présidente de la République élue et je ne crois pas que ce choix soit indifférent.
Premier sujet abordé ce soir, le pouvoir d'achat, sujet qui a permis à Marine Le Pen de marquer des points avant le premier tour. Est-ce qu'il manque, côté Macron, de votre point de vue, Yaël Braun-Pivet, au fond, une mesure qui crante, comme on dit, qui imprime alors vous allez me dire, il y a eu les mesures pour le gaz et l'électricité, il y a eu la ristourne sur le carburant. On a l'impression qu'il manque une mesure dont on se dise, ah oui, ça, la mesure pouvoir d'achat de Macron, c'est celle-ci.
Alors, les mesures que vous citez, ce sont des mesures qui sont immédiates, qui sont rapides, et qui permettent à nos compatriotes de boucler les fins de mois, mais cette fin de mois. C'est important, on avait besoin de prendre ces mesures urgentes. Moi, dans le programme du candidat Macron, il y a une mesure pouvoir d'achat qui me paraît essentielle, c'est le versement social à la source. Pourquoi ? Parce que dans notre pays, nous avons des centaines de milliers, voire des millions de nos concitoyens qui ne touchent pas toutes les aides auxquelles ils ont droit. Ce sont les APL, c'est le RSA, c'est l'allocation adulte isolé, un certain nombre de versements qu'il faut demander. Moi, j'ai été responsable d'un centre des Restos du Cœur, j'ai vu des gens venir au Resto du Cœur alors que s'ils avaient demandé leurs aides, ils n'y seraient pas venus. Donc ça, c'est fondamental dans la vie de quelqu'un. Et le fait de dire ce versement aura lieu automatiquement, directement, sans que vous ayez à le demander, sans que vous ayez à remplir des formulaires, sans que vous ayez à fournir des documents, des photocopies, des scans, etc. Il y a plein de gens qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont loin de l'informatique, parce qu'ils sont loin des démarches administratives. Eh bien, pour toutes ces personnes-là, ça va réellement leur changer la vie.
À ce propos, question de Pablo au standard. Bonjour Pablo.
Oui, bonjour.
Vous êtes allocataire du RSA, je crois.
Voilà, ouais. Bonjour madame.
Bonjour.
Écoutez, voilà, moi je suis allocataire du RSA et j'aimerais savoir sous quelles conditions, en quelque sorte, je vais pouvoir conserver ce droit ou sinon, quel travail je vais être obligé de faire avec mes pauvres ressources.
Yaël Braun-Pivet vous répond.
Oui Pablo, en fait il n'y a pas de travail que vous allez être obligés de faire. Il ne s'agit pas dans le projet d'avoir une contrepartie au RSA. Il s'agit en fait de pouvoir vous accompagner. Bien souvent, on se rend compte que les personnes qui touchent le RSA aujourd'hui le touchent depuis de longues années et qu'elles finalement elles n'ont pas d'espoir de s'en sortir, elles n'ont pas d'avenir qui leur est offert d'insertion dans la société. Ce que nous souhaitons faire, c'est pouvoir vous offrir un accompagnement personnalisé, que ce soit une formation, que ce soit un accompagnement dans des groupes de travail, du coaching, refaire un CV.
En aucun cas, ce serait un travail, ce serait uniquement de l'accompagnement.
Il n'est pas question que ce soit un travail type travail d'intérêt général. Le RSA, ce n'est pas une peine, il n'est pas question de cela. Il est question de faire en sorte que demain, vous n'ayez plus besoin de toucher le RSA parce que vous serez reparti dans le monde actif. Et je crois que ça, c'est le meilleur que l'on peut vous souhaiter. Personne ne peut souhaiter à quelqu'un de rester éternellement et durablement au RSA.
Mais il y a bien la notion de contrepartie, Yaël Brand-Pivet.
C'est vraiment cette notion d'accompagnement. C'est un tout. Mais c'est comme ça que cela avait été créé à l'origine. C'est un tout. On vous donne une certaine somme d'argent parce que il n'est pas concevable que vous n'ayez pas le minimum pour vivre, mais on ne se satisfait pas de ce minimum. On veut vous donner plus, et ce plus, c'est un accompagnement personnalisé. C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour nos jeunes avec la garantie jeune. C'est ce qu'on fait pour nos jeunes avec le contrat engagement jeune, et c'est ce qu'on veut faire pour tous les allocataires du RSA, pour que demain vous ne soyez plus allocataire du RSA, que vous ayez retrouvé une activité professionnelle qui vous convienne, qui vous permette de vivre beaucoup plus dignement.
Comment convaincre qu'un deuxième quinquennat Macron marquerait une démocratie plus horizontale, moins verticale, Yaël Brand-Pivet? On peut lire ici ou là que c'est l'intention du président de la République, mais la Convention citoyenne, une bonne partie des propositions n'ont pas été reprises. Le grand débat, on ne sait pas ce que sont devenus les cahiers de doléances. Comment Emmanuel Macron peut-il convaincre que ce sera différent lors du second quinquennat?
Parce que on a appris. Parce qu'on a appris parfois de nos échecs, parce qu'on a appris parfois de notre carence, et qu'on voit que une réforme, quand elle est de très grande ampleur, elle n'est acceptée et elle ne peut aller jusqu'à son terme que si elle est partagée, que si elle a été construite avec les personnes qui sont engagées, que ce soit les élus, le Parlement, le CESE bien sûr, les élus territoriaux.
CESE, Conseil économique et social et environnemental.
Vous avez raison. Mais vous voyez, par exemple, on voit bien que la transition écologique, elle se fait que si chacun est engagé à son niveau, que si les maires sont engagés. Vous ne faites pas de
piste cyclable. Mais quand il y a eu la Convention citoyenne,
si vous n'avez pas les maires avec vous.
Excellente opportunité, la Convention citoyenne. Juste une petite partie des propositions a été reprise.
Alors, une grande partie des propositions a été reprise.
On est loin de l'intégralité qui était promise.
Oui, mais parce que la Convention citoyenne, c'était une étape. Les citoyens ont délibéré et nous ont confié, si j'allais dire, le bébé au Parlement pour que l'on puisse travailler. Mais vous savez, aujourd'hui, quand
le gouvernement... Il y a une promesse qui n'a pas été tenue sur ce terrain-là.
Parce que le Parlement a délibéré, et c'est bien normal. Quand le gouvernement prend un projet de loi, le projet de loi rentre au Parlement, je peux vous assurer qu'il en sort modifié par le travail des parlementaires, Assemblée nationale ou Sénat. Et donc, la Convention citoyenne, nous avons pris les conclusions. Un certain nombre ont été appliquées immédiatement par le gouvernement. Et quant à celles qui ont été confiées à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous avons effectué le travail pour lequel nous sommes élus. Nous avons modifié le texte, mais parfois nous avons été plus loin que les conventionnés. Je crois qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres. Il ne faut pas opposer les citoyens avec leurs représentants. Notre enjeu démocratique, c'est de faire en sorte que cela se combine, que cela soit complémentaire pour que justement nous avancions ensemble. Et Marine Le Pen, justement, dans son projet, fait plutôt l'inverse et oppose les uns aux autres.
Une dernière question standard, celle de Corinne. Bonjour Corinne.
Bonjour, j'aurais voulu savoir, donc depuis 5 ans que Monsieur Macron est au pouvoir, on voit que les conditions de travail, notamment dans la santé et l'éducation nationale, périclite en fait. Et donc j'aurais voulu savoir ce que vous pouvez proposer aux fonctionnaires qui travaillent dans la santé et dans l'éducation nationale pour les remotiver face au manque de moyens auxquels ils doivent faire face. Pour exemple, les sages-femmes qui se sont mises en arrêt à la maternité de Nevers, par exemple.
Yaël Brand-Pivet vous répond.
Oui, vous avez raison. Ce sont les deux grands chantiers que le président candidat veut ouvrir avec vous, avec les citoyens, avec les professionnels, pour trouver des solutions sur chaque territoire. J'ai entendu effectivement les sages-femmes de la maternité de Nevers. Là-bas, ils ont un manque de personnel criant. Nous proposons d'embaucher.
Ils sont passés de 26 à 14 en 2 ans.
Et nous proposons d'embaucher sur le quinquennat 50 000 personnels soignants pour justement redéployer partout sur le territoire suffisamment de personnes, mais chaque territoire étant différent, il faut construire les solutions en local, que ce soit pour l'éducation ou que ce soit pour la santé.
Yaël Braun-Pivet, êtes-vous confiante pour l'issue du vote dimanche prochain ?
Écoutez, c'est comme toujours, un vote n'est jamais acquis tant qu'il n'a pas eu lieu. Donc pour le moment, je suis comme tous mes collègues en campagne de façon acharnée. Hier, j'étais à Vienne, demain dans les Yvelines. Il faut convaincre jusqu'au bout et je serai confiante quand je verrai les résultats.
Et, vous faites partie de ceux qui seront candidats à leur propre succession législative ?
Je pense, oui, continuer cette belle mission que m'ont confiée les concitoyens. En tout cas, j'espère.
Merci beaucoup d'être venu dans les studios de France Inter. 13h45.